sur la question de la prière du soir. Et ensuite, nous aurons un certain nombre de références sur ce que les Midrashim disent de la nature de ces anges, de la vision de Jacob, qui montent et qui descendent sur l'échelle. Bien, alors le texte que nous allons commencer à voir concerne non pas exactement la prière, c'est-à-dire la tefila de l'arbi, mais le rite du kriyashma, du soir. Et il s'agit d'une controverse entre Rabbi Yochanan et Rabbi Yoshua ben Levi, qui porte sur le point de savoir si l'ordre de la prière le soir serait kriyashma d'abord et ensuite tefila. J'expliquerai tous ces termes plus exactement. Comme d'ailleurs la halakha est actuellement, le soir comme le matin, l'ordre des deux mitzvot principales du Sidour, c'est d'abord la lecture du Shema et ensuite la tefila. Et la Gemara enseigne un principe à ce sujet qui est extrêmement important. À partir du temps de la destruction du temple, on a relié ces deux mitzvot. La première, qui est le Kriyat Shema, qui n'est pas une prière à proprement parler, mais un rite de proclamation, de témoignage, c'est la proclamation de l'unité de Dieu et qui est désignée en hébreu par l'expression Kabbalat Ol Malchut Shamayim Be'ol Mitzvot, c'est-à-dire, c'est un rite que je me borne à faire allusion à sa définition, c'est un rite de, littéralement, réception sur soi de la souveraineté du Dieu unique et de sa loi. Kabbalat Ol Malchut Shamayim Be'ol Mitzvot. La prière étant un deuxième rite qui, dans le principe, non seulement a une liturgie différente, un objet différent, mais aussi des moments dans la journée pas exactement coïncidents avec ceux de la mitzvah du Kriyat Shema. Donc, toujours beaucoup de choses à la fois, mais j'essaye de simplifier. La mitzvah du Kriyat Shema, de la proclamation de foi, de la réception de souveraineté, de l'unité de Dieu, c'est-à-dire le refus de l'idolâtrie qui consiste à faire éclater cette unité des valeurs que représente la notion de l'unité du nom de Dieu et de la loi qui en découle. Et ce rite se réalise le soir et le matin, suivant ce qu'indique le verset de la Torah lui-même, Beshorbecha ou Kumecha, en te couchant et en te levant. C'est un premier rite, le Kriyat Shema. Puis le deuxième rite auquel je fais allusion, c'est celui de la prière, à proprement parler, la Hamida, le Shmoneh Esrei, la Tfila. Et la tefila, ça fait trois fois par jour, le matin, l'après-midi et le soir, dans la correspondance avec l'identité des trois patriarches et les autres parallèles que nous avons vus très rapidement hier. Nous sommes habitués dans le sidou, dans le rituel contemporain depuis très longtemps, depuis le temps de la décision dont je vous parlerai, à un lien très étroit entre ces deux mitzvot, le Kriyat Shema et la tefila. Le Kriyat Shema entraîne la tefila, lui est relié, lui est joint, smicha, le samouch. Et en tout cas, c'est bien évident, pour le soir et le matin, où les deux sont parallèles, que sont coexistants. La mincha, il y a une autre disposition, c'est la raison pour laquelle on lit avant le Shmoneh Esrei, le psaume de Tehillah et David. Je dis cela pour ceux qui se posaient la question, c'est assez parallèle au Kriyat Shema. Mais il n'était pas évident, a priori, que les deux rites soient reliés. On pouvait les réaliser, si vous voulez, distinctement l'un de l'autre, d'autant plus que l'heure légale, pendant le temps légal pendant lequel se rite à force de loi et d'obligation n'est pas exactement coïncident. Tout ceci était la situation jusqu'au moment de la destruction du temple, c'est-à-dire tant que le temple existait, eh bien les deux mitzvot étaient dans le principe. C'est tellement ancien comme disposition que nous avons perdu la familiarité de cela, mais tant que le temple existait, ces deux rites étaient dans le principe, distincts. Et à partir du moment de la destruction du temple, il y a eu toute une délibération des maîtres de la tradition qui nous est gardée dans le Talmud, et la décision a été prise de joindre ces deux rites, ce qu'on appelle smicha, la jonction de Geoula. Geoula, la référence à la dénomination du Dieu d'Israël comme le Goël Israël, c'est-à-dire à la référence historique de la Géoula d'Égypte, et qui est non seulement la dernière allusion qui nous est donnée par le texte du Kriyat Shema lui-même, le dernier verset de la troisième paracha du Kriyat Shema, mais aussi la formulation, l'intitulé de la dernière bracha qui suit, Baruch Ata Hashem Gaal Israël. Et la décision qui a été prise, c'est de joindre la référence à la définition de Dieu comme libérateur d'Israël, donc donnée historique. Il n'y a pas la référence métaphysique, de définition théologique, philosophique, mais la référence qui peut être unanime parce qu'elle est historique, que la prière s'adressera à l'allusion à Dieu qui a sauvé Israël d'Égypte. Et vous comprenez immédiatement, pendant que le temple existait, la kavana de la prière de demande, l'intention de la prière s'adressait, et dans une kavana qui nous est restée par un rite que nous connaissons encore, on se tourne du côté d'Eretz Israël lorsqu'on est dans la diaspora, on se tourne du côté de Jérusalem lorsqu'on est en Eretz Israël. On a pris l'habitude de dire vers le Mizrach, parce qu'on était dans l'Occident, alors on se tourne vers le Mizrach. Mais en fait, ceux qui se trouvent en Orient, se tournaient vers le Maharav, puisqu'il s'agit de se tourner vers Eretz Israël, lorsqu'on est en diaspora, au moment de la Tfila. C'est une règle qui a été pratiquement adoptée par toutes les communautés. Je crois que du point de vue de la Halakha, lorsqu'on ne sait pas où se trouve cette direction, il suffit de se tourner devant un mur, pour ne pas avoir... pour ne rien avoir devant soi. Et la seule disposition qu'on peut signaler, c'est qu'il est en général interdit de se tourner vers le nord. Mais, bon, une parenthèse que je dis en passant. Et alors vous allez me demander, mais si on ne sait pas où est... on ne sait pas non plus où est le nord. Mais, il peut arriver qu'on se trouve dans un endroit, dans une situation... par rapport au point cardinal, ou par exemple la porte d'entrée, soit du côté de l'Eretz Israël, alors que c'est une porte de sortie. Alors en tout cas, on ne peut pas se tourner vers le Mizrach, en tout cas pas vers le Tzafon, à peu près vers le nord, comme elle arrive. Et donc la kavana, l'intention de la prière, était adressée dans une... Vous entendez bien le sens du mot kavana, intention, dans ce sens-là. Et bien entendu, kavana signifie serveur, mais c'est surtout dans le sens de... devant qui je me trouve, elle est adressée à celui à qui est rendu le culte qui est rendu au temple. Il y a, vous voyez, une référence historique. Je fais partie de cette communauté dont le culte par ses Kohanim, prêtres entre guillemets, et nous parlerons de ce culte tout à l'heure, est rendu au temple à ce Dieu que, en fin de compte, le grand prêtre sait devant qui il se trouve. Il y a une kavana seconde. Elle passait par la Avoda, par le culte, au temple. Et lorsque le temple a été détruit, et le temple à Jérusalem représentait le principe d'unité, d'unification, le principe du peuple 1, de l'unité d'Israël. Parenthèse mais importante, la date de la destruction du temple a toujours été considérée, à tous les points de vue, comme une catastrophe, parce que le point de référence de l'unité d'Israël disparaissait, en tout cas du point de vue de son existence concrète, visible. Et la divergence des différentes tribus risquait de mener à un éclatement de cette unité. Vous référez à la définition fondamentale de la fête de pèlerinage, Aliyah la Regel, où les chefs de famille, plus que les chefs de famille d'ailleurs, enfin disons les familles de toutes les tribus devaient monter s'unifier à Jérusalem. La destruction au temple de Jérusalem. La destruction de Jérusalem comme principe d'unité d'Israël a été ressenti comme une véritable catastrophe parce que le point de référence de l'authenticité disparaissait au niveau historique. Et la question s'est posée de savoir par quoi le remplacer du point de vue de la définition de l'intention de la prière. À qui on s'adresse, devant qui on s'adresse. Bien entendu, la formule va rester, et la formule est importante, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, mais pour qui n'a pas la connaissance du contenu de ces termes, quel est le contenu de l'intention de prière dans cette question devant qui je me trouve, à qui je m'adresse. Donc, tant que le temple existait, cette kavana était simple. Et c'est une référence facile à désigner de façon unanime. Et Jérusalem, c'est Jérusalem de tous. Vous remarquez d'ailleurs que, quelle que soit la nature des controverses qu'il y a autour des mille problèmes de la définition de l'authenticité d'Israël, en tout cas, Jérusalem ne fait pas question. Ça vaut la peine de réfléchir pourquoi, est-ce qu'il n'y a pas là ici une sorte de catégorie inconsciente qui nous dépasse. Pourquoi certaines choses, en tout cas, ne sont jamais en controverse. Je me trouvais hier soir dans une réunion où on discutait de cela, et puis est apparu un principe qui nous est familier, mais qui mérite d'être mis en évidence. Par exemple, à la limite, on ne mettra jamais en question le principe de la circoncision, quelle que soit la manière dont chacun se définit comme juif. Eh bien, il y a aussi Jérusalem. Et donc, tant que le temple existait, la référence était simple, du point de vue formel en tout cas. Elle pouvait être unanime, bien que la connaissance du Dieu du grand prêtre, lui, du Kohen Gadol, renvoyait à toute une science. Mais on pouvait faire allusion sans risque d'erreur, sans risque de, si vous voulez, d'hérésie qui viendrait de l'erreur. Et voilà que le temple est détruit, et c'est ressenti pour cela comme une véritable catastrophe à l'échelle nationale. Vous vous rappelez d'ailleurs du verset du psaume qui fait allusion à la fête de pèlerinage, Yerushalayim, Rabbenouya, Keir, Shehu, Berala, Yahda. Et le sens direct, c'est que Jérusalem représente la ville qui, Shehu, Berala, Yahda, qui unifie ensemble toutes les tribus d'Israël. Ce qu'indique très clairement le verset du même psaume, Shesham, Hanouch, Vatim, Shifteya, c'est-à-dire c'est là-bas que montaient les tribus. Les tribus par elles-mêmes vont en divergent, et il est nécessaire que périodiquement elles se réunifient, et c'est Jérusalem qui est le principe de la réunification. Et dans ce risque de divergence des tribus, il n'y a pas seulement un risque de divergence des tribus à l'échelle ethnique, les haedot, comme on dit aujourd'hui, les communautés, les manières d'être suivant l'histoire de nos voyages, mais à tous les niveaux, et aussi les options, les points de vue, les définitions, les parties pris et les parties non prises. Et malgré tout, il y a, au-delà de toute cette problématique de divergence possible, des principes d'unification qui sont les signes de l'alliance, et en particulier donc Jérusalem comme principe unificateur. Ce qu'il en est resté, c'est que partout au monde, donc, depuis le temps de la destruction du temple, pour notre point, l'intention de prière est intentionnée, si j'ose dire, vers le temple de Jérusalem. Et donc, pratiquement, toutes les communautés se dirigent vers Eretz Israël, toutes les communautés d'Eretz Israël vers Jérusalem, et où que ce soit à Jérusalem, on se dirige vers l'endroit du Kotel, qui est l'endroit du temple. Et voilà que le temple est détruit, la délibération qui apparaît, c'est quoi substituer à cette référence simple, évidente, claire et efficace. Il y avait, entre autres possibilités, deux possibilités qui ont été envisagées. Soit de donner une définition théologique, soit de donner une définition historique. Je voudrais essayer de faire comprendre le principe même d'abord de cette controverse. De donner une définition théologique, c'est-à-dire de définir métaphysiquement, théologiquement, philosophiquement, quel est le Dieu auquel nous croyons. Mais les rabbins ont rejeté cette hypothèse. Vous retrouverez d'ailleurs cette controverse dans toute l'histoire de la théologie. Les théologiens qui préfèrent choisir les critères, le vocabulaire, la problématique philosophique, et à leur tête, c'est évidemment qui ? Maïmonide. Et ceux qui préfèrent choisir les critères de l'histoire, et à leur tête, c'est évidemment Jésus. Ben voilà, vous faites des progrès. Et alors, en fait, il faut savoir que ce que dit Judas Lévi et ce que je dis et ce que dit Maïmonide, c'est la même chose. Mais la problématique est complètement différente. Et les rabbins ont rejeté cette hypothèse. Même une troisième hypothèse, c'était d'introduire la prière par la récitation des 10 commandements. Ce serait une hypothèse possible. Mais finalement, l'hypothèse qui a été, la thèse, si vous voulez, qui a été retenue, c'est de relier à une référence historique. À qui sera adressée l'intention de la prière, l'intention de la demande, à celui qui est connu comme celui qui a fait sortir d'Israël d'Égypte. Et c'est ce qu'on appelle Smicha de la Geoula Litfila, joindre la notion de la délivrance, historique, à la prière. La prière se base, on est sommaire, notre lecture du même terme, mais le sens est identique, on se fonde, on se base, on s'appuie sur l'expérience de la délivrance et l'expérience de la sortie d'Égypte. Et alors, la controverse que nous allons lire, assez rapidement, pour aborder le deuxième point de l'étude, est entre Rabbi Yochanan et Rabbi Yoshua ben Lévi. Rabbi Yochanan dit, le soir comme le matin, on joindra la prière au rappel de la sortie d'Égypte. La smicha de Geoula Litfila le soir doit se faire de même qu'elle, le soir de même qu'elle se fait le matin. C'est-à-dire, du point de vue du rite, de même que le matin, on dit d'abord le Kriyat Shema, et ensuite, immédiatement après, sans aucune interruption, dès qu'on a dit Gal Israël, on commence la tefila, de même il faut le faire le soir. Nous sommes aussi habitués au fait qu'on le fait le soir de la même manière, parce que la halakha est comme Rabbi Yochanan. Mais je crois qu'il est important de réfléchir, en le reliant un peu à ce que nous avons vu hier, sur le fait du caractère aléatoire de la liturgie du soir que font nos accords. Nous avons vu essentiellement, en tout cas, un point de l'enseignement des versets, que Jacob a été obligé, bien qu'il aurait pu se sentir, et avec beaucoup de raisons pour cela, dispensé de le faire. Il tente de recommencer tout à zéro, vous vous rappelez de cela, d'aller directement de Beersheba à Haran sans passer par l'endroit de la prière de ses pères, Isaac et Abraham, mais Dieu, par une stratégie cosmique dont le détail vous est donné dans les Midrashim qu'on n'a pas étudié, eh bien, l'oblige à stopper à Jérusalem et à instaurer la liturgie du soir. Vous rappellerez de ce que dit un des versets suivants que vous n'avez pas dans vos références. Achen, yesh Hashem bamakom haze, vanochi lo yada. Dans son histoire, Jacob avoue lui-même qu'il ne savait pas que dans son histoire Dieu était présent. Il ne savait pas parce que c'est l'histoire de la nuit, dans la nuit, mais il ne savait pas que Dieu était présent. Il faut qu'il rêve pour voir la réalité. Et lorsqu'il se réveille, il retombe dans le monde des apparences où il ne sait pas que Dieu était présent, bien que ce soit l'histoire de l'exil qui commence. Et il en a très peur. D'ailleurs, Vaïra, Vaïoma, il a eu peur et il dit ainsi. La controverse, donc, tient sur ce point. Tout se passe comme s'il est évident que la liaison entre le Kriyat Shema et la Tfila au matin va de soi, qu'il n'y a pas de difficulté. Et vous remarquerez donc que dans le Sidour de la Tfila de Shachrit, il n'y a strictement aucune interruption entre le dernier mot de Brachot du Kriyat Shema, Baruch Ata Hashem Gaal Israël, et immédiatement après, on commence la Tfila. Sans Kaddish, sans aucune interruption. Le soir, c'est aussi le même ordre. Dès qu'on a fini le Kriyat Shema, on va commencer la Tfila. Et on n'a pas le droit de s'interrompre en parlant. Enfin, c'est ça l'interruption, c'est dire autre chose entre le cheminement des propositions de la prière, donc de la liturgie. Mais il y a quand même, Ashkibenu est considéré comme adjoint à la Geoula, mais il y a quand même un kaddish entre le Kriyat Shema et la Tfila. C'est une sorte de trace du fait qu'il y avait problème. Mais malgré tout, la halakha est que cet ordre-là, Kriyat Shema d'abord, Tfila ensuite, le soir, est aussi gardé. Et nous sommes donc invités à réfléchir à la signification de cette controverse. Rabbi Yoshua ben Lévi, lui, dit au contraire, et il a deux arguments pour cela, les mêmes que Rabbi Yochanan pour la thèse inverse, mais inversée, c'est que le soir, il faudrait dire d'abord la tefila, et ensuite le Kriyat Shema. Est-ce que les données du problème sont claires? C'est pas la peine que je fasse un schéma au tableau, comment?
Okay.
Le matin, il y a deux fois le Kriyat Shema. Ce ne sont pas les mêmes, et de la même manière que les deux Kriyat Shema du matin ne sont pas les mêmes. Le premier c'est le Kriyat Shema des Korbanot et le deuxième c'est le Kriyat Shema du Yotze. Mais c'est un autre problème que vous posez, mais rassurez-vous, le soir aussi il y a deux Kriyat Shema. Alors en tout cas, je reviens à la question, puisque je vais vous demander si ce schéma des deux tableaux de Rabbi Yochanan est de... Vous voulez que je le mette au tableau ou c'est pas nécessaire? Et de Rabbi Yochanan, oui. Voilà le tableau de Rabbi Yochanan. Et c'est celui que nous suivons aujourd'hui. À partir du matin, Kriyat Shema d'abord, ensuite Tfila de Shachrit, Tfila de Mincha, Kriyat Shema de Arbit, Tfila de Arbit. Rabbi Yehoshua ben Lévi demande tout à fait autre chose. Il demande Kriyat Shema du matin, Tfila de Shachrit, Tfila de Mincha, Tfila de Arbit, et ensuite Kriyat Shema de Arbit. Alors je vais lire directement le texte et j'essaierai de mettre en évidence le problème qui nous concernait hier. On cite un enseignement précédent, Kore Kriyat Shema ou Mitpalel. Le soir, lorsqu'on revient du travail, voici l'ordre, on dit d'abord Kriyat Shema et ensuite on prie. Et simplement, je me borne à utiliser la citation du Mahamar précédent, de l'enseignement précédent. On a étudié tout à fait autre chose précédemment, pas tout à fait autre chose, mais apparemment autre chose. Et puis, la Gemara s'appuie sur un morceau de citation qui lui fait poser notre problème. Le maître précédent avait enseigné, l'enseignant précédent avait dit « Kore Kriyat Shema ou Mitpalel » il s'agit de l'ordre de la conduite de soi, il doit dire Kriyat Shema et ensuite faire la tefila. Enfin, le problème était de savoir si on a le droit de manger avant de dire Kriyat Shema ou tefila. Et étant donné qu'à partir du moment où déjà c'est le temps du rite, alors on n'a pas le droit de manger avant. Et surtout pas de dormir. Bon, ensuite, la loi a été beaucoup atténuée par la suite, parce que, en règle générale, nos générations contemporaines, et depuis des siècles, n'ont plus la force liturgique des générations précédentes. Alors, à travers les siècles, si vous voulez, la loi est aménagée dans le sens un peu de l'atténuement, si vous voulez, mais on étudie ici les principes de cet ordre de la conduite dans la journée. Et la Gemara dit ceci, « Nesayale le Rabbi Yochanan ». Cet ordre qui est cité dans l'enseignement précédent vient à l'appui de l'opinion de Rabbi Yochanan, laquelle, d'Amar Rabbi Yochanan, de ce que Rabbi Yochanan avait dit. Et voici quelle est la formule. Ezehu ben haolam haba, de qui peut-on dire? Qui est celui-là qui? Ezehu ben haolam haba, qu'on peut définir comme destiné au monde à venir. Ici, il faut faire un peu de linguistique hébraïque. Ben quelque chose, être fils de quelque chose, littéralement. Mais ça veut dire destiné à. Celui qui peut s'attendre à. Donc, Ezehu ben haolam haba, de qui peut-on dire qu'il va au monde à venir? C'est moi qui interprète, mais littéralement ça veut dire qu'il mérite le monde à venir. Zeh asomer geula et tfila shel arbit. C'est celui qui établit la jonction entre la geula et la tfila aussi le soir, aussi pour la liturgie de arbit. Rabbi Yehoshua ben Lévi omer, alors que Rabbi Yehoshua ben Lévi dit, cite un tout autre principe, tefilot ben tsar tikunun. Les tfilotes, les prières, ont été instituées, Behemsar, entre, au milieu. Cette formule-là peut se lire différemment, mais du point de vue de la question qui est étudiée ici, ça veut dire bien évidemment au milieu des Kriyat Shema. Puisqu'on met Rabbi Yehoshua ben Lévi en controverse avec Rabbi Yochanan. Or, le sens de la controverse est de savoir si le soir, le Kriyat Shema serait après la tfila ou avant, si, selon Rabbi Yehoshua ben Lévi, le Kriyat Shema est après la tfila, il en résulte que les trois tfilotes, Shachrit, Mincha, Arbit, sont au milieu des deux Kriyat Shema. Tfilot, Behemsa, Tikkun. Donc, remarquez, bon, en fait, c'est une coïncidence que je vous signale en passant, pour avoir un peu de dentelle, si vous voulez, c'est que finalement, entre les deux Kriyat Shema, vous avez Shachrit, Mincha, Arbit. Essayez de composer le mot qui apparaît des trois premières lettres de Shachrit. Les trois premières lettres de Shachrit Mincha Arbit, ça fait Shema, mais c'est une coïncidence. Alors donc, Rabbi Yehoshua ben Lévi dit, Tfilot Behemsa Tikkun. Les Tfilot ont été instituées au milieu des deux créatures. La Gemara demande, en quoi ils sont en controverse? Sur quoi portent leur controverse? Et il y a là une méthode habituelle à la Gemara, qui est extrêmement importante à étudier pour elle-même d'ailleurs d'autre part et en général, c'est-à-dire, si tu veux, je vais expliquer la controverse. Ibaet Ema, si tu veux, je dirais que la controverse s'expliquera sur une divergence de la lecture des versets, Kra, le texte, et si tu veux, la controverse peut s'expliquer par un raisonnement. Ibaet Ema Svara, on commence par le raisonnement. De Rabbi Yochanan Savar. Voilà comment a pensé Rabbi Yochanan. Geoula, Meuchtaname, Ave. La délivrance, elle était déjà le soir. Notez si vous voulez où survient l'articulation, mais il n'y a pas d'ailleurs beaucoup de propositions à noter, mais de telle sorte que la controverse soit claire. Selon Rabbi Yochanan, la délivrance, le soir, était déjà là. Et là, mais Geoula Mahaliata, la Havia et la Hatsapra. La Geoula, par excellence, ne sera qu'au matin, le lendemain matin, à la fin de la nuit. De quoi s'agit-il? De la sortie d'Égypte elle-même. Avant la nuit, Moïse annonce à Israël, et il annonce au monde entier, il annonce ce soir, à minuit, vous serez délivrés. Mais le soir, cette nuit, à minuit, vous serez délivrés. Mais le soir, avant l'événement, et on est encore dans la situation très précise de encore dans la galoute et avec l'annonce que c'est imminent. C'est-à-dire qu'on entre dans la nuit et on nous dit c'est dans cette nuit que vous aurez la lumière. Nous, on est encore dans la nuit. Alors Rabbi Yochanan s'engage. Et Rabbi Yochanan dit, moi je considère que le soir où est annoncée la délivrance qui aura lieu à minuit, c'est déjà délivrance. Bien que la délivrance par excellence, Geulta Ma'aliata, c'est de l'araméen, mais je ne l'entends pas en hébreu, c'est Atsafra, que le lendemain matin. Il faut attendre le lendemain matin. Donc, cette difficulté de l'engagement, si vous voulez, existe le soir, parce qu'il y a certitude sans preuve, d'une certaine manière. C'est le lendemain matin qu'il y aura certitude avec preuve. A posteriori, c'est la thèse de Rabbi Yehoshua ben Levi. Comme nous allons voir, Rabbi Yehoshua ben Levi dira pas question. Quand il fera jour, on le verra bien. Mais il y a des raisons pour ça, nous le verrons. Ça fait que ressembler à la discussion d'hier. Mais qui pourrait par exemple citer le principe de Rabbi Yehoshua ben Levi ici, contre lequel Rabbi Yochanan s'oppose en disant une chose énorme. Ezehu ben Aolamaba. Vous voyez, tout se passe comme si, à court d'arguments, il parle de quelque chose d'hypertrophié. Ezehu ben Aolamaba. Mais qui ira au monde à venir? Zera Somer Geoula Litfila, Shel Arbi. Et il s'explique du point de vue de la Sabara. Et c'est déjà une Geoula le soir. Dès que Moïse a dit, ça y est. Et c'est déjà une Geoula. Mais la Geoula par excellence, elle ne sera que le lendemain matin. Après la nuit. Qui pourrait citer tout de suite le principe de Rabbi Yehoshua ben Levi? C'est un principe très connu. Nous, Shema Igrom Achet, de peur que ça échoue. Shema Igrom Achet, c'est-à-dire de peur que la faute soit, puisque c'est œuvre humaine, entre guillemets. Shema Igrom Achet, c'est-à-dire de peur que nous, de peur que la faute cause l'échec, de peur que c'est. Et c'est relié d'ailleurs au texte que nous sommes en train d'étudier avec Jacob. C'est la Mida de Yaakov. Vous le verrez dans une des références, je vous donne beaucoup de travail pour après. Dans une des références que vous avez, que la Mida de Yaakov, c'est la Ira, Vayira, Vayomar. Et effectivement, nous savons que Jacob a un mérite colossal. C'est Choufra des Choufrés d'Adam Arishon. Le projet du Créateur depuis Adam Arishon, c'est finalement Jacob qui réussit. C'est Jacob qui devient Israël. Et Jacob a toujours cette crainte d'entreprendre Shema Igromachet. Quels que soient ses mérites, il ne peut pas se baser sur ses mérites parce qu'il a un scrupule infini. Il faut faire attention à la scrupulite, mais c'est quand même l'aïra du scrupule. Et nous retrouverons un peu cette dimension de ce principe dans l'interprétation du Midrash où les anges représentent les génies culturels des grands empires et que le dernier de ces génies, de ces anges, de ces malachim, celui de Edom, monte, arrive jusqu'au haut de l'échelle, mais alors que Jacob a vu tous les autres descendre, et celui-là ne descend pas, et Jacob est pris de terreur, et Dieu lui répond par un verset des prophètes, « Al-Tira Azdi Yaakov » n'aie pas peur, vous voyez que la peur, la ira, c'est la mida de Yaakov. Alors, « Al-Tira Azdi Yaakov », c'est extraordinaire, c'est celui-là par excellence qui pourrait se baser le plus sur le mérite pour ne pas avoir peur de cet engagement, c'est Davka, précisément celui-là même, qui a peur. Alors ce verset est important. Il faut que Yaakov s'entende dire « Al-Tira »,« Al-Diyakov ». Vous comprenez bien le pshat du verset. Il n'y a pas Altira Yaakov, il y a Altira Avdi Yaakov. Le Yaakov qui est Avdi. Bien. Et voilà donc, je reviens sur ce premier point, la Svara de Rabbi Yochanan, c'est-à-dire Geoula Meurta Namehave et la Geoula Maaliata, la Havia et la Hatsafra. C'est déjà le soir, Urta, le soir. La tombée de la nuit, c'est dit Urta en araméen. C'est paradoxal. On dit or pour dire le soir. Un peu comme or l'herbarata en hébreu, pour la première Mishnah de Tsachim. Et donc, dès le soir, c'est délivrance, bien que, va dire Rabbi Yochanan, la Géoula par excellence, elle ne sera commune. Et donc, du point de vue de la liturgie, l'atmosphère de la jonction, et cette jonction en hébreu, ça se dit pas seulement joindre les deux formules, mais que l'une se base sur l'autre. Il se mord. Comment dit-on aussi en français ?
S'appuyer
sur. Le matin, elle peut être faite. On peut, dans la prière du matin, se référer comme base, comme appui, à la référence de la révélation. De la révélation, que dis-je ? De la libération. De la Géoula. Pourquoi ? Parce qu'au matin, la Géoula est déjà faite, elle est derrière moi. Du point de vue de l'expérience même, du temps liturgique dont il s'agit ici, je suis sorti de la nuit. Et par conséquent, je peux dire au matin que je m'adresse à celui qui m'a fait sortir de la nuit. Mais le soir, je vais rentrer dans la nuit. C'est difficile de dire le soir, quand je vais rentrer dans la nuit, que je m'adresse à celui qui va me faire sortir de la nuit. Peut-être que j'en sortirai pas. Alors qu'intellectuellement, je sais que j'en sortirai. Mais spirituellement, je ne sais pas. C'est là qu'est le scrupule. Est-ce que c'est bien clair ? Oui, quel sera le scrupule de Rabbi Yochanan ben Lévi du point de vue de cette liturgie ? D'accord ? C'est-à-dire qu'il y aurait une contradiction spirituelle le soir à se baser purement et simplement sur la notion de Géoula. Alors qu'il y a certitude intellectuelle, elle est religieuse cette certitude, elle est messianique, que nous arriverons au matin du grand jour. Mais alors qu'il y a certitude intellectuelle, il y a épreuve spirituel du doute, schéma Igromachet. Le soir c'est difficile, le matin il n'y a pas de problème, mais le soir c'est difficile. Alors c'est pourquoi, bien que Rabbi Yochanan discute par Svara, par raisonnement, bien que ensuite il va y avoir citation de versets, et au-delà de ces deux discussions impossibles, par le verset et par le raisonnement, et il s'engage à un tout autre niveau en brisant la controverse et en disant Ezehu ben Aolam Haba. Qui méritera le monde à venir ? Voyez à quel niveau ça se passe, cette controverse. Et ce qui est important, la raison pour laquelle j'ai cité cela, c'est que la halakha est comme Rabbi Yochanan. Et quand la halakha est comme Rabbi Yochanan, c'est que c'est la Torah qui a tranché. Parce que la Svara de Rabbi Yochanan ben Lévi, elle fait partie de la Torah. Mais au niveau de la halakha, comment faut-il faire ? Eh bien, la halakha est comme Rabbi Yochanan. Tout à l'heure, très rapidement, nous verrons l'interprétation du texte par rapport à l'événement historique, si vous voulez, mais je voulais suivre quand même la fin de la conversation. Rabbi Yochanan ben Lévi, ça va, nous sommes au niveau raisonnement. Et Rabbi Yochanan ben Lévi pense qu'il va de la Havia et la Mitzafra, étant donné que la délivrance n'était, j'ajoute, totale qu'à partir du matin, a posteriori de l'événement, la Havia ou la Mariata. Alors le soir, ce n'est pas une délivrance par excellence. Et remarquez qu'il n'y a pas de controverse. Parce que Rabbi Yochanan aussi dit que le soir, ce n'est pas une délivrance par excellence. Et Rabbi Yochanan ben Lévi dit aussi qu'il est évident que c'est le matin que la délivrance sera par excellence. Donc, tout se passe comme si nous n'arrivons pas à saisir le nœud de la controverse. Les deux sont d'accord que le soir, c'est un début de début et qu'il y a difficulté pour la halakha elle-même et il y a difficulté pour du scrupule. Et que ce n'est qu'une fois que ce sera arrivé qu'on sera sûr, Geoula Mahaliata, et cependant la controverse reste. Mais elle ne porte pas sur les données du problème, elle porte donc sur un engagement qui ne peut se mettre ni en raisonnement ni en citation de verset. Alors, est-ce que c'est bien clair ? Et ce qui est important, c'est que. Non, je me suis mal exprimé. Pas qu'il ne peut se mettre ni en raisonnement ni en citation versée. Qui peut se mettre en raisonnement et en citation versée, mais ça ne sert à rien. Mais ça ne permet pas de trancher. La controverse entre Rabbi Yochanan et Rabbi Shimon ben Levi, elle est parallèle à tout le temps qui mènera au monde à venir. Et l'important, c'est de savoir que la halakha a tranché. Voilà, surtout ce qu'il faut retenir.
Est-ce que le phénomène de la nuit a une importance en soi?
À une?
La nuit.
Oui, à une.
La nuit qui passe entre le soir et le matin. La nuit,
oui,
a-t-elle une importance dans la controverse? C'est ça ma question.
Bien
la
entendu.
La nuit en soi, le fait que entre le soir et le matin.
Attendez, je ne crois pas avoir bien compris votre question.
La prière du soir,
oui,
et celle du matin.
Oui. Il y a la nuit entre.
Il y a la nuit entre. Alors je voudrais savoir si la nuit en soi, avec son influence possible sur le doute et l'échec, a une importance dans la controverse. C'est quelque chose que je n'ai pas compris.
C'est le fond de la controverse. C'est-à-dire, vas-y.
Vous m'entendez quand même? Oui. Voilà. Nous sommes ici au centre de soir. Et puis, là, il y a minuit. Et là, c'est le matin. Voilà. La référence, la base de la prière, d'une façon générale, c'est que là, je suis là. Et se bat sur la Géoula. Sa prière est basée sur le rappel de la délivrance de la sortie. Je connais un secret de Dieu. Il délivre, il fait, c'est à cela que je m'adresse. Or, je suis dans les vies, de nouveau dans les vies. Alors, ici, le matin, baser ma fila sur la Géoula ne fait pas de difficulté. Parce que la Géoula a eu lieu, donc je me réfère spirituellement à une certitude, avec preuve, puisque je suis sorti de la nuit pour entrer au jour, je suis sorti de l'exil et je suis délivré. Je peux donc m'adresser à celui qui m'a délivré en certitude. Tandis qu'ici, je ne peux m'adresser à lui qu'en foi, en espérance, parce que la Géoula n'a pas encore eu lieu. Et bien sûr qu'elle a eu lieu il y a longtemps, mais ça, c'est un souvenir individuel. Je sais, mais il n'y a plus de mots, enfin vous avez compris l'idée. L'épreuve spirituelle reste la même, bien qu'il y ait une certitude intellectuelle. Vous remarquerez d'ailleurs une chose importante, que dans la dernière bracha du Création-là, celle qui précisément introduit la notion de Géoula, la formule est différente. Le matin, nous disons, juste après avoir dit Hashem Otetir Averet Mitraim, le dernier verset du Kriyat Shema, le matin nous disons Emet Veyatsil. Nous disons c'est vrai et c'est sûr que c'est vrai, d'une certaine manière. Yatsil, c'est vrai et c'est solide. Okay. Mais le soir on dit Emet Ve'euna. C'est vrai, mais c'est vrai par la foi. Parce que c'est sûr, mais sans preuve. Bon, je pense que c'est clair. Là, dans la nuit, on entre dans une atmosphère de foi, alors que le matin, c'est une atmosphère de certitude. Les mots ne sont pas exacts. Du point de vue, si vous voulez, de la conviction psychologique, la certitude est la même. Mais du point de vue de la référence à la preuve, le matin, il y a preuve parce qu'on voit la lumière. Le soir, il n'y a pas preuve parce qu'on ne voit pas la lumière. C'est pourquoi, d'ailleurs, du point de vue de la liturgie, je vous le rappelle, je l'ai déjà cité, le Talmud insistera sur le fait que le signe de l'obligation de la prière du soir qui commence par le Kriyat Shema du soir, c'est que les étoiles apparaissent. Parce que, au moins, cette lumière de la nuit, c'est le signe que lumière il y a. C'est-à-dire, à la limite, dans une nuit sans étoiles, cela n'aurait plus aucun sens de prier. Si vous voulez, dans une nuit sans étoiles, on ne prie pas, on dit la prière, pour ne pas l'oublier. En tout cas, revenons à notre question, ceci est indiqué par un verset des psaumes qui est très important. Et qui est les hagis, la boker hasdecha, veemunatecha, balelot. Ça veut dire, ce verset indique que le psalmiste, enfin la louange, pour dire le matin, ta fidélité, Hasdecha, veut dire aussi ta charité, ta miséricorde, mais le Hasid, fidèle, Hasidou, pour dire ta fidélité au matin. Le matin, je sais que tu m'as été fidèle, puisque je suis arrivé au matin. J'ai traversé la nuit. Ve'emunatra valeo, et la confiance que j'ai en toi dans les nuits. Bon, je pense que maintenant c'est suffisamment clair. Vous voyez où est la controverse. Alors, c'est la raison pour laquelle la discussion entre Rabbi Yochanan et Rabbi Yoshua ben Lévi n'est pas au niveau du raisonnement. Les deux sont d'accord que le soir c'est aléatoire et le matin c'est sûr. Les deux sont d'accord que ce qu'on attend c'est la Géoula du matin, mais qu'on la vit déjà le soir. Et alors, d'où vient que Rabbi Yoshua ben Lévi s'engage autrement que Rabbi Yochanan? Rabbi Yochanan dit, dès que c'est le soir, c'est sûr quand même. Et Rabbi Yoshua ben Lévi dit, pas du tout. C'est le matin que c'est sûr, le soir c'est pas encore sûr. Donc là, une minute, le critère de l'engagement ne vient pas du raisonnement, ne vient pas du diagnostic de la situation, il est le même, le diagnostic de la situation. Il ne vient pas non plus de référence au verset, comme nous allons le voir, donc il vient d'ailleurs. Il vient de ce mystère qui se produit là, dans l'option, dans l'engagement de Rabbi Yochanan déjà le soir. C'est très bien, mais ce qui est important c'est de savoir que la halakha est comme Rabbi Yochanan. Et oui, vous avez une question.
Est-ce que ça ne traduit pas psychologiquement le problème de l'angoisse nocturne?
Disons que l'angoisse nocturne traduit ce problème.
Le problème de l'angoisse.
Oui, non, mais j'ai bien compris. Oui, j'ai bien compris. Mais, bien entendu, mais nous les modernes civilisés, nous ne percevons plus ces réalités concrètes, mais l'inconscient est passé.
On est d'accord.
Bien sûr.
C'est l'analyse de Jung.
Je vous ai.
Je vois que nous sommes en bonne compagnie.
Jéhovah, il m'a bien parlé.
Là, oui.
Il merci à vous.
J'ai une question. Je viens de citer le psaume avec son référent très faible, demander la fidélité le matin. Imouna, conviction.
Confiance. Confiance.
La confiance. Pourquoi, du coup, le matin, la veille, vos derniers obstacles, le matin, le matin, le matin, rabo et mon offerbo. Et qu'on termine, n'est-ce pas, en remerciant. En remerciant Dieu de bonne voix, rendu notre Nechama, bravo et mon cerveau, grand et ta fidélité.
Il faut mettre un imparfait. Ainsi, je vois bien que grand était ta fidélité. Bravo et mon intérêt. Je prends acte.
Le texte ne le dit pas.
Et il ne dit pas non plus le contraire. Mais je prends acte. C'est pas vous. Je prends acte que la fidélité, la confiance que j'ai mise en toi au début de la nuit était justifiée et qu'elle est grande. Bravo et mon intérêt. Mais pas de cela, c'est rare.
Et
mon
intérêt, pas et
mon intérêt. Et mon
intérêt. Alors justement, on s'attendrait à dire Rabba,
Rabba. Non, mais regardez le verset. Et mon intérêt valait l'autre. Et mon intérêt valait l'autre. En hébreu, strictement, ça veut dire, comme nous disons, El Neeman, on traduit par Dieu fidèle, mais ça veut dire en hébreu strictement, El Neeman, Dieu à qui on peut faire confiance. El Neeman. D'ailleurs, c'est ça que ça veut dire fidèle. Quelqu'un à qui on peut faire confiance. Mais, enfin, il n'y a pas vraiment de controverse ici. Les deux choses sont ensemble. J'ai foi en toi parce que j'ai confiance en toi. C'est la même chose. J'ai confiance dans la confiance que tu m'as promise.
Est-ce que pour les deux, au service de cette émouna, de cette confiance, y a-t-il une seule chita, une seule méthode, ou les deux
se servent plus? Expliquez plus, je n'ai pas très bien compris.
Est-ce qu'au service de cette émouna, de cette confiance, pour les deux qui controversent, y a-t-il une seule chita, une seule méthode?
J'avoue, je n'ai pas compris. Donnez un exemple, peut-être. Donnez un exemple.
Bon.
À quoi vous faites allusion?
Je fais allusion à des méthodes de test SEDEC de psychiatrie, où on essaye de mettre au point une méthode basée à la fois sur émouna, sur la confiance et la chita pour diagnostiquer les troubles psychologiques chez des adolescents.
C'est que le professeur Baruch appelle la chitamnie.
Oui, chitamnie.
Chita de l'émouna.
Peu importe, oui.
Vous voulez dire, est-ce que la émouna peut s'enseigner, peut se transmettre? Est-ce qu'il y a une méthode pour donner la émouna?
Pour arriver au même point de convergence des deux rabbis qui controversent sur ce sujet.
Non, écoutez, je crois que on ne peut pas dire que Rabbi Shoben n'a pas confiance. Et il ne serait pas dans Talmud, il ne serait pas dans la communauté d'Israël. Mais il ne veut pas qu'on se base sur cette confiance pour la smicha dont il est parlé, pour l'assurance
dont il est parlé. Et alors, enfin, je tenais à mettre ça en évidence. Si vous voulez que le moquet, le nœud de foyer, le nœud de la controverse n'est pas au niveau intellectuel, n'est pas au niveau de la référence au texte, puisque les deux disent la même chose, mais il est dans l'engagement. Bon, c'est une manière d'expliquer le problème, bien entendu. Et alors, je termine, puisque j'ai commencé la citation, « Veiva et Emma Kra ». Et si tu veux, je l'expliquerai, dit la Gemara, par référence au texte, par référence au verset. Et alors, c'est extraordinaire. « Ushnehem mikra echad darshu ». Et les deux ont expliqué le même verset. Je voulais simplement faire un chidouche sur l'expression hébraïque. « Ushnehem mikra echad darshu ». Ils ont recherché le même verset. Hidroche, ça ne veut pas simplement dire creuser, approfondir, mais rechercher. Comme dans Barthélère, l'hidroche est taché. Les deux ont cherché le même verset. Alors, je vais ajouter une petite phrase qui est balancée. Il y a un des deux qui l'a trouvé, mais les deux l'ont cherché. Dit-il, parce qu'il est écrit, Beshortecha ou Bkumecha, en te couchant et en te levant. Rabbi Yochanan Savar, voici le raisonnement de Rabbi Yochanan sur le verset. Matish Riva le Kima. Il faut faire une analogie entre la situation du coucher et la situation du lever. Matkima Kriyatshma Vahakar Tfila. De même que le matin, c'est d'abord Kriyatshma et après Tfila et personne ne discute, alors le soir aussi. C'est Kriyatshma d'abord et c'est très fort comme raisonnement. Comment pense Rabbi Yochanan? C'est justement cette certitude du matin dont je me sers le soir. Mais pas du matin, du lendemain matin, du matin de ce matin. Vous comprenez le raisonnement de la Yohana. Rabbi Shor Ben-Lévi Savar, alors que Rabbi Shor Ben-Lévi pense, Makish Riva Lekima, le même raisonnement, il faut faire analogie entre le coucher et le lever. Makima Kriyat Shmar Samuch Limitato, de même que le Kriyat Shmar du matin est lié au lit, c'est-à-dire il sort du lit. Mita. Mais Mita, avec tête, pas avec table. Mais bien que ce soit avec tête et pas avec table, tu m'as tout d'abord. Grâce à Chichi. De même que le matin, il sort du lit, ça veut dire de la nuit, pour entrer dans le jour. Arshrivaname, Kriyachma, Samur, Lemitato. Le soir aussi, le Kriyachma doit être relié au lit, c'est-à-dire à la nuit, et donc après la tuile. Donc, comment est le raisonnement de la Bouche en Bénévi? Là, ce serait pas à moi à dire, mais. Comment raisonne Rabbi Shor Ben-Lévi? C'est que tu me parles de ta certitude du matin. Parle-moi aussi de la terreur d'où tu étais sorti le matin. Alors de même que le matin, la certitude est liée à la terreur, de même le soir, la certitude est liée à la terreur. Oui, vous voyez à peu près qu'au niveau du raisonnement, il y a, comme on dit dans la Gemara, c'est pas dit ici, mais j'ajoute un peu abusivement, mais je crois qu'on peut, il y a tekou, de dire tekou. Vous connaissez l'expression? Oui.
En Israël, on dit matchbull. Et on explique que c'est un mot araméen qui signifie que la chose est suspendue. C'est un sens, ce mot-là. Dégoût, ça veut dire on suspend la. Alors, on va donner un tableau là-dessus. C'est ici. Il y a ça.
On suspend quoi? La discussion.
Il y a discussion. Il y a discussion. Il y a un avis, le tchoui. Et ça va être, ça c'est la lecture. Et ça va être, ça veut dire.
Va expliquer. Expliquer.
Résoudre par le raisonnement. Les couches de Bayot, les difficultés et les problèmes, sur le paradigme, on avait la vie à la phase de l'étalée, Yévaël, éclair, Yévaël. C'est une méthode différente. Alors, là, ce sont la question est plus. Il y a quand même une méthode. Yétalée, c'est Yévaël. Alors, les kabbalistes disent que pour ça, il faut les 50 portes de l'entendement, Charalé, une Charalé, Mina.
Bien, alors, voilà donc le. Le premier texte que nous devions voir. Bien, est-ce qu'il y a des questions? Oui.
Je voudrais revenir de deux pas en arrière, sur hier, sur le problème de la chute de province, sur la marque de la chute de province. Vous nous avez dit que la RAFA a été J'ai toujours vécu avec une idée, j'ai toujours vécu avec une idée de savoir que la RAFA a été, que c'est la chute, et que c'est parce que le peuple, pendant suffisamment longtemps, a fait de cette chute une réalité quotidienne, que c'est devenu une chose acceptée par les clans et qui est devenue provinciale. Donc en réalité, je crois que c'est un point extrêmement important. Ce n'est pas de haut que vient la province de Gambie, ça vient du bas. Ça vient de la base, comme on dit.
J'ai compris. Je vous répondrai, mais je voudrais d'abord vous demander, est-ce qu'il y a une source sur cette opinion que vous venez de dire?
Je crois que c'est un archéologue aussi qui nous donne. On sent que c'est un archéologue, je crois, les donne aussi. À plusieurs endroits, je veux dire, je l'ai vu plusieurs fois, depuis la Tarvie, que la halakha était que c'est de chute et non pas Khobah, mais que tout simplement, je crois même que c'est le Shnei Khobatri qui le donne, je crois.
Le Shla,
je crois aussi, je vous apporterai la référence exacte, mais il est, pour moi, enfin, toujours quelques idées, ça venait de la base, l'organisation et pas de l'autre.
Alors, écoutez, je peux vous dire, on a pu certainement citer la formule que, étant donné que c'est devenu Minhag Mefoussam, Minhag Israël de Torah. Que le minhag d'Israël devient Torah. Mais c'est pas la source talmudique. Nous avons une page et demie de discussion dans la Masoret Brachot, nous avons des pages 30, si vous voulez, nous pouvons lire, mais le temps avance. Peut-être on notera ça pour un autre séminaire. Il y a une discussion où Rabbi Yoshua est mis en accusation, parce qu'il enseigne tu la Farbit Reshut, et que Rabban Gamliel, d'autorité, enseigne tu la Farbit Chova, ça se passe au Sanhedrin.
On le démet à ce moment-là, parce qu'il a su
travailler au choix,
il est
là debout,
et à ce moment-là, on
est
dans ses fonctions. Est-ce qu'on
ne
peut pas accepter par là que
la halakha n'est pas acceptée? Non, ça c'est autre chose. Écoutez, voilà comment ça s'est passé. Un talmid de la yeshiva, c'est-à-dire du Sanhedrin, un talmid. Et ensuite, on va nous dévoiler à la fin de toute la souya que c'est Rabbi Shimon Bar Yochai, ce talmid. Pose la question à Rabbi Yoshua. Il lui demande, Rabbi Yoshua, tu l'as traduit, Reshut Ochova. Rabbi Yoshua dit, Reshut. Alors ensuite, ce Talmud, c'était Rabbi Shimon Bar Yochai, mais jeune, va demander à Rabban Gamliel, « Tfilat Arvit Reshut Chova ?» Rabban Gamliel répond, « Chova ». Alors, Rabbi Shimon Bar Yochai, jeune, dit à Rabban Gamliel, « Mais Rabbi Yoshua m'a dit Reshut ». Alors, Rabban Gamliel a attendu que Rabbi Yoshua vienne à l'académie, et il a dit, « Rabbi Yoshua, lève-toi, il va lui poser une question. » Et il demande à Rabbi Yoshua, Rabbi Yoshua, c'est Rabban Gamliel qui parle cette fois. Tu l'as arbitre, Reshut Chova. Alors Rabbi Yoshua dit Chova à Rabban Gamliel. Alors Rabban Gamliel dit, mais pourtant tu as dit Reshut, reste debout. Bah donc cette controverse n'est pas simple. Ça veut dire qu'il y a une opinion que c'est Reshut, et c'est l'opinion de Rabbi Yoshua. Mais à partir du moment où Rabban Gamliel, qui est l'autorité de la halakha, dit que c'est Chova, Rabbi Yoshua aussi enseigne que c'est Chova pour la halakha le maaseh, pour pratiquer. Mais il avait gardé pour l'enseignement son opinion que c'était Reshut. Et c'était cette opinion pour l'enseignement que Rabbi Shimon Bar Yochai a cité à Rabban Gamliel. Et il y a eu, si je me souviens bien, une dix-huit, peut-être plus, questions controverses sur toute la liturgie du soir. Et en particulier sur le fait de savoir si on est Mastir Yetziat Mitzrayim Balelot. Tout le problème de la Vela de Pessah. Et finalement, c'est Rabbi Elazar ben Azaria qui remplace Rabban Gamliel à la suite de ce que vous avez cité, c'est que les collègues de Rabbi Yoshua se sont révoltés contre Rabban Gamliel et qui institue d'autorité toutes ces dispositions. Ça veut dire qu'on n'arrive pas à décider si entrer dans le temps de l'exil, on va quand même perpétuer dans la nuit les liturgies du jour ou pas. Et en prenant ce petit exemple, si vous voulez, d'aujourd'hui, tant du point de vue du raisonnement que de la référence au verset, on ne peut pas trancher, et c'est d'autorité que l'engagement optimiste a été pris, bien que c'est la nuit, on mentionne la sortie d'Égypte, etc. C'est vraiment d'autorité que l'a été pris. Ce que je pourrais ajouter à ce que vous avez dit, c'est que très certainement les chefs de la halakha n'auraient pas pris cette décision d'autorité, s'il n'était pas assuré que c'était le sentiment de la base. Mais, rappelez-vous ce que dit Rabbi Elazar ben Azaria lui-même lorsqu'il a remplacé Rabban Gamliel. Et ensuite, Rabban Gamliel, dès que Rabban Gamliel a été déposé, Il s'est dirigé vers Rabbi Joshua, il l'a embrassé, et il lui a dit, il n'y a rien entre nous, mais la loi, c'est la loi. Vous voyez à peu près le propos. Et la Mishnah qui est citée dans la Gada de Pessah est très importante. Parce que Rabbi Lazar ben Azaria lui-même dit, « Areani keben shivim shana velo zachiti j'étais amer yitiat Yisraim balem » Il dit, « Je suis maintenant comme âgé de 70 ans, c'est-à-dire l'âge du chef du Sanhedrin, l'âge mental. Et puis, et cependant, je ne suis pas arrivé à démontrer que la décision que nous avons prise est fondée, disons, intellectuellement. » Et on peut dire, en référence à ce point, dans ces deux méthodes, c'est-à-dire tant du point de vue du raisonnement proprement parlé, c'est-à-dire du diagnostic de la situation, que de la référence au verset. Je crois que c'est très important comme problème. Et bon, je pense que ça suffit à nous éclairer pour cet aspect de la question. Est-ce qu'il y a une autre question? Sinon, continue. Tout va bien? Ok.
À propos de la sortie, donc, la sortie de l'ennemi, la sortie d'Égypte, question qui est un peu à côté, il est assez étrange, chacun, de constater que dans tout le récit de la Haggadah, pas une seule fois le nom de Moïse n'est cité. C'est assez étrange, c'était assez drôle, comme tu en parlais des guerres de l'Empire, sans une fois Napoléon. Pas une fois. Est-ce qu'on sait pourquoi?
Oui.
Une fois. Vous avez raison, une fois il est cité à la fin, quand on considère que ça a été à Haggadah.
C'est pas dans la Haggadah.
C'est pas dans la Haggadah.
C'est pas dans la Haggadah.
Et alors, est-ce qu'on sait pourquoi?
Oui, en particulier, je vous citerai surtout l'enseignement du Gaon de Vilna, qui dit ceci à propos du verset « Ani velo malach, ani velo shariach ». C'est moi, c'est Dieu qui parle, qui dit c'est moi qui vous ai délivré, moi et pas un chaliard. Aucune allusion. Et moi et pas un malard, et moi et pas un ange. Ça veut dire, ne croyez pas que c'est Moïse qui vous a délivré, alors que c'est Moïse qui vous a délivré. Mais ne croyez pas que c'est Moïse qui vous a délivré, c'est moi. Et c'est l'explication du Gandevina. Ani vers le chaliard, c'est mon cher Abénou. À qui Dieu fait allusion en disant moi et pas un envoyé? À Moïse. La réponse est très simple. Pour pas qu'on risque de croire que c'est Moïse qui a fait ça. Et de croire que c'est une œuvre humaine, de croire que. Oui, là-dessus.
Parce que c'est justement le docteur Merson qui a repris. Lina a dit qu'il y avait une phrase, c'était là, dans l'Exode. Au moment où Moïse se trouvait les 40 jours et les 40 nuits, qu'en bas ils étaient en train de fomenter le veau d'or, déjà, les Hébreux étant impatients de ne pas devoir revenir, ont exprimé cette phrase, je ne citerai pas en hébreu, « Où est cet homme? Où est-il cet homme qu'on ne voit plus? Cet homme qui nous a sortis d'Égypte. » Et Dieu aurait pris ombrage de cette...
Du fait ombrage, c'est pas nous.
Enfin, je parlais. C'est le fait que déjà, ils avaient oublié que c'était lui, Dieu, qui nous avait sortis d'Égypte, mais où est cet homme qui... Et
oui.
Cette phrase de...
Oui, la phrase est la suivante, qui disait Raïch Moshe Asher Hea Elanu, et ils auraient dû dire Asher Ose Anu. C'est la différence du verbe. Shaliach, Aliyah, qui disait Raïch Moshe Asher Hea Elanu, Meret Mitzrayim, Lo Yadarnu, Mer Yadot. C'est-à-dire, nous savons plus ce qui est arrivé. Et effectivement, il y avait une tentation du culte de la personnalité vis-à-vis de Moïse, qui a été la cause profonde de la faute du mot d'or. Cette tentation n'est pas venue des Bnei Israël eux-mêmes, mais du Hébra qui a accompagné les Bnei Israël à la sortie d'Égypte. Vous connaissez la différence. Hein? Avec Israël, ils sont sortis d'Égypte, toute une foule d'hommes candidats à la libération. Et de ce Hébra, de cette foule, a surgi cette adoration de Moïse comme médiateur. Et il y a une sorte de vide absolu quand Moïse n'est pas là. Et il n'est pas là pour recevoir la loi morale, mais ça, on ne comprend pas dans le Hébra. Et alors, ils demandent à Aaron de faire une idole représentant la divinité qui était Moïse à leurs yeux, en tant que Dieu. Et donc, Dieu va prendre acte de cela, c'est très joli. Le père Nerson cite dans son commentaire sur la Gada.
Dans son commentaire sur la Gada, il trouvait ce passage aussi joli, et vraiment, il a fallu chercher longtemps pour trouver Moïse, et comme dit le monsieur, en effet, on le trouve une fois à la fin, alors que la Gada est terminée.
Quand la Gada est terminée,
c'est quand même étonnant. C'est quand même étonnant.
Dans le Halel Mirta, dans le Mirta.
Non, cependant, je crois que c'est dans le passage de la Gada qui est donné.